Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Femmes, un combat mondial à quelques jours du 8 mars, journée internationale des femmes. Regard sur des situations aussi différentes que la condition des femmes dans des pays bouleversés par des guerres, celles qui subissent l'esclavage, celles encore qui ont brisé le silence pour témoigner contre le harcèlement sexuel. Le débat féministe de certaines est-il un privilège indécent? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur du rapport remis il y a quelques semaines à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, rapport qui pointe l'impunité des coupables de crimes et délits sexuels et les limites du système judiciaire en France. Bonjour.
Bonjour.
Et Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty International France et porte-parole de la Fondation des femmes. Bonjour.
Bonjour.
Où en est l'égalité des sexes dans le monde? Voilà la question à laquelle tente de répondre le dernier rapport d'ONU Femmes publié à la mi-février, un état des lieux peu optimiste qui tente à démontrer que seule l'amélioration des droits des femmes permettra de combattre pauvreté, violence et conflits, discrimination jusqu'au réchauffement climatique. Quel chemin reste-t-il à parcourir selon vous entre ces constats qui se font année après année et la réalité? Est-ce qu'on avance un tant soit peu?
Oui, on avance. On avance, même si pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et si certaines situations dans le monde font que, dans certains pays, on va regresser. Vous parliez des zones de conflit, les problèmes des migrations, où on voit que les femmes sont souvent les premières victimes de ces phénomènes. Par contre, ce qui est clair, c'est que année après année, d'une part, il y a l'ONU, hein, qui sort des rapports, qui sort des préconisations. Mais il y a également, et ça il faut pas l'oublier, l'OCDE qui, encore l'année dernière, dans son rapport, précisait que l'égalité femmes-hommes au niveau justement de l'emploi, par exemple, du travail, du monde du travail, permettrait de gagner 3,9 points de PIB. Et quand on voit cela, certains pays, notamment le Japon, depuis un certain nombre d'années, s'attachent à favoriser justement l'égalité des femmes, ce qui veut dire aussi les facilités pour faire garder leurs enfants, l'éducation. C'est pas uniquement la question des salaires, mais c'est en règle générale. On voit aussi comment, dans de nombreux pays, la question de la lutte contre les mariages forcés, l'accès aux droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire pour les femmes de pouvoir contrôler la maternité, de décider quand elles ont des enfants et pas trop tôt, parce que justement les mariages précoces, les maternités précoces vont soustraire les femmes du système éducatif et finalement à terme vont les condamner à perpétuer cette pauvreté. Bien là aussi, il y a des campagnes qui sont menées, il y a des attaques, mais au moins, et ça je pense aussi que c'est très très important, on voit comment les femmes s'organisent de plus en plus, et vous avez parlé notamment du climat, si on prend par exemple les femmes qui sont défenseuses justement de l'environnement, du droit à la terre, eh bien elles sont de plus en plus nombreuses là aussi à se battre. Donc il y a à la fois une prise de conscience, mais aussi les femmes qui sont dans une démarche de plus en plus puissante pour changer les choses, pour changer le monde, et pas que les droits des femmes, mais aussi la planète.
Muriel Salmona.
Alors oui, ça, je suis tout à fait d'accord. D'un côté, les chiffres sont accablants. Les conséquences de toutes ces violences sexuelles sont gravissimes et participent totalement aux inégalités, à la précarité dans laquelle vivent et la pauvreté dans laquelle vivent les femmes. Donc c'est des systèmes qui perdurent et qui s'auto-entretiennent continuellement. Mais on en parle beaucoup plus. Disons que ça c'est l'élément vraiment qui change. On en parle beaucoup plus, on dénonce beaucoup plus. Il y a bien plus quand même d'indignation. On connaît beaucoup plus les chiffres. C'est quand même très récent. Et puis, on parle beaucoup plus des conséquences sur la santé, avec l'OMS, avec tous les rapports qui sont faits, même si on va en parler, je suppose. Je monte continuellement en créneau sur cette non prise en compte de l'impact sur la santé et du problème de santé publique majeur. Mais tout ça, ça évolue. Mais reste quand même un élément qui est vraiment très préoccupant, c'est l'absence de protection des enfants, qui sont les premières victimes. Et je le rappelle continuellement, les filles sont les premières victimes des violences sexuelles. Et la prise de conscience est loin d'être faite.
Alors, on en parle de plus en plus, on dénonce de plus en plus. Il est vrai par ailleurs que, alors on a parlé de libération de la parole de la femme, enfin tout de même ça fait des années que les femmes parlent sans être jamais entendues, ou en tout cas de façon correcte. Il y a une espèce de vide sidéral autour de tout cela, Geneviève Garrigaud.
Bien, il ne faut pas l'oublier, il y a une question quand même de hiérarchisation dans la société quand on parle égalité femmes-hommes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans une situation d'inégalité. Cette situation d'inégalité, elle est quand même liée à ce qu'on appelle la domination du patriarcat, et on voit bien qu'il y a une réticence très forte. Et d'ailleurs, les violences extrêmes qu'on peut avoir dans certains pays, je parle par exemple des féminicides, hein, dont on parle beaucoup en Amérique latine, eh bien on les met totalement en lien avec le fait que justement l'émancipation des femmes, cette recherche d'autonomisation de leur part, entraîne une réaction masculine très violente. Et un des phénomènes un des constats aussi que l'on peut faire, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de lois qui sont adoptées et dans tous les pays sur justement la protection des femmes, l'égalité des femmes, y compris la reconnaissance d'une chose qui il y a quelques années encore semblait impossible, c'est-à-dire le viol conjugal, donc vraiment la reconnaissance de ces violences, les violences au niveau du travail. Mais parallèlement, il y a des lois, mais on constate des déficiences. Et ça, c'est quelque chose d'assez général sur l'application en justice, c'est-à-dire les recours effectifs que peuvent avoir les femmes, l'impunité qui s'instaure progressivement, et puis le manque de moyens. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on voit à travers le monde, c'est-à-dire que quels sont les moyens qu'on met au-delà des lois, au-delà des conventions, au-delà des traités pour faire appliquer.
Alors, on va parler bien sûr de ce qui se passe en France, mais je reste quelques instants sur le rapport ONU-Femmes, donc publié à la mi-février, pour donner quelques éléments qui viennent alimenter ce que vous avez dit l'une et l'autre. Chaque année, les pratiques telles que le mariage précoce privent de leur enfance 15 millions de filles de moins de 18 ans. Les désavantages en termes d'éducation, alors que ça fait des années que l'on sait, et vous l'évoquiez sur la question du produit intérieur brut de chaque pays, des années que l'on sait que l'éducation des filles permettrait d'énormes gains dans la croissance des pays concernés. Selon les données provenant de 87 pays, c'est toujours ce rapport de l'ONU, 20% des femmes de moins de 50 ans et des filles ont subi des violences physiques et ou sexuelles infligées par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois. Ça fait une femme sur 5 sur ces 87 pays étudiés. On peut facilement penser qu'à l'échelle mondiale, ça fait une femme sur 5. Et les femmes championnes du travail non rémunéré, elles assurent, les femmes, 2,6 fois plus de tâches familiales et de travaux domestiques non rémunérés que les hommes. C'est un constat
accablant.
Accablant, Muriel Salmanin.
Oui, et puis il faut rajouter aussi les femmes manquantes. Ces millions de femmes qui ne sont pas là parce que, étant femmes en Inde, en Chine, elles ne naissent pas ou elles sont tuées au moment de la naissance. Donc ça correspond aussi à cette vision de discrimination gravissime que subissent les femmes de plein fouet. Et c'est vrai que, bien entendu, toutes les lois se mettre en place pour lutter contre ces phénomènes et ces privilèges inouïs que peuvent avoir du coup les hommes sur les femmes. Mais dans la réalité, on est encore dans une situation d'impasse très importante d'année en année.
Alors, quelques mots sur les pays en guerre. Geneviève Garrigaud, depuis 7 ans, les femmes se font assassiner, violer en Syrie et nous sommes incapables de les défendre.
Oui, la question de la Syrie permet malheureusement est devenue emblématique parce que on a un concentré de tout ce que les femmes peuvent subir de violence pendant les conflits, mais aussi les migrations et aussi la réinstallation. Parce qu'il y a les violences sexuelles. Les violences sexuelles, aujourd'hui, sont pratiquées dans toutes les zones de conflit. Ça fait des années qu'on le sait. On ne protège pas assez les femmes. Il y a une prise de conscience, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Sachant que les violences sexuelles que subissent les femmes, ça va être, par exemple, lors des attaques, mais aussi lorsqu'elles sont incarcérées. Et ce n'est pas uniquement dans les pays en guerre. Hein. Par exemple, moi, je me souviens, on a sorti un rapport Amnesty International il y a 2 ans qui montrait justement les violences sexuelles que subissaient les femmes dans les prisons, dans un État qui n'est pas en guerre. Donc, il y a ces violences sexuelles. Il y a le fait que derrière, elles puissent être rejetées de leur communauté. Donc, ça les condamne au silence. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment pu observer, notamment pendant le conflit en Bosnie. Donc, ce silence qui condamne les femmes, mais derrière, quand elles vont quitter le pays sur les routes d'émigration, elles vont être encore victimes de violences sexuelles, elles vont être souvent prises dans des réseaux de traite. Je lisais encore la semaine dernière qu'en Espagne, par exemple, les femmes qui arrivent du Venezuela, elles sont prises dans des réseaux de traite parce que fragilisées. Elles vont être soumises aussi à beaucoup de pression et notamment, là aussi, j'ai le cas, pour revenir à la Syrie, de journalistes qui, en Turquie, subissent du harcèlement sexuel si elles veulent travailler, voire des jeunes femmes qui vont être données pratiquement en mariage contre une somme d'argent. Donc, on voit toutes les difficultés et toutes les violences tout au long du parcours. Et il faut vraiment protéger les femmes, parce que derrière, c'est les enfants et c'est l'avenir. C'est-à-dire que l'impact de ces violences, il est sur les femmes, il est sur les sociétés, sur les pays en entier.
Muriel Salmana, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, bah, c'est vraiment l'utilisation aussi de ces violences sexuelles comme des non seulement des armes de domination, de destruction, de soumission, de mise en esclavage, et qui permettent en fait de piéger à la fois, bien entendu, énormément de femmes, de filles, et effectivement d'avoir des conséquences sur toutes les populations extrêmement importantes.
Alors, depuis l'automne dernier, automne 2017, beaucoup d'affaires sont sorties à propos de harcèlement sexuel. Alors, à l'heure où de nombreuses femmes dans le monde, on vient de l'évoquer, subissent esclavage, viol systématique, est-ce que le débat féministe opposant Hollywood à Paris vous semble un privilège indécent ?
Alors,
Muriel Salmana.
Non, enfin, est-ce qu'il s'agit du débat de la tribune du Monde avec Catherine Deneuve ?
Il s'agit de tout.
Il y a beaucoup de choses.
Oui.
Non. Alors que ce soit MeToo, balance ton porc, ce n'est pas du tout un débat indécent. C'est-à-dire que la lutte doit se faire à tout niveau, ouais. Et les violences sexuelles concernent toutes les femmes. Alors bien entendu que les violences sexuelles vont s'exercer avant tout sur les femmes les plus jeunes, les plus précaires, les plus vulnérables, et sur vraiment les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants. Il faut pas les oublier, les personnes handicapées. Mais par ailleurs, c'est toutes les femmes qui sont concernées. Et plus les femmes effectivement parlent, sont entendues, plus toutes les femmes vont pouvoir effectivement être mieux protégées. Donc c'est pas du tout indécent, c'est absolument nécessaire. Ça ne concerne pas effectivement toutes les violences sexuelles, mais le fait d'être entendu, le fait que des personnes même privilégiées puissent dire qu'elles subissent aussi ces violences est vraiment essentiel.
Geneviève Garrigos.
C'est un débat, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, c'est un débat d'occidentaux. Déjà, il y a une première chose, c'est vrai que ce débat, c'est, vous le disiez tout à l'heure, absolument, ça fait longtemps que les femmes parlent, mais on ne les écoute pas. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que, justement, à travers ces débats, ce que l'on voit, c'est que c'est pas uniquement certaines populations, certaines cultures, certains pays où les femmes sont maltraitées, ce qu'on entend souvent. Hein, on va plutôt pointer du doigt ce qui peut se passer dans les pays du Moyen-Orient et beaucoup moins ce qui peut se passer en France, par exemple.
C'est plus facile.
C'est ça, parce que nous, les femmes, on les protège. Non, il y a des difficultés de ce niveau. Le deuxième point, c'est de bien faire comprendre aussi que ces violences sont en toutes les sphères de la société, c'est-à-dire que les femmes les subissent. Bien sûr, il y a des violences dans la rue, il y a des violences au travail, mais c'est aussi dans la sphère familiale. Et là, justement, à travers toutes ces campagnes de dénonciation et toutes ces femmes qui se sont exprimées, on voit bien que ce sont le plus souvent des proches, ce qu'on a toujours dit. Hein. C'est pas le fantasme du parking obscur, etc. Non, les femmes sont agressées partout. Elles sont dans des situations où elles sont dominées par ce fait-là. Et ce qui, là aussi, est majeur, c'est qu'on comprenne l'impact de ces violences. Parce que souvent, ah oui, te faire agresser, quelqu'un qui te met la main aux fesses dans le métro, qui te touche un sein, qui te dit quelque chose qui est profondément agressif, etc. Oui, mais est-ce que c'est grave? Or, prendre conscience que déjà, et là le débat apporte beaucoup, prendre conscience que ce type de violence est destructeur pour les femmes, eh bien, ça laisse envisager combien c'est destructeur quand ce sont les viols systématiques. Et les débats qu'on a aujourd'hui, j'espère, moi, que non seulement ça va nous faire évoluer ici, mais ça va faire prendre conscience à nos gouvernements de combien ils doivent s'engager à l'international aussi contre ces violences faites aux femmes. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus que juste un débat entre nous, c'est le débat des violences que subissent les femmes et de l'impact qu'elles ont et qu'il faut agir.
Et de l'absence de tolérance, et justement le fait que la tolérance diminue et qu'il y ait une vraie dénonciation vis-à-vis de ces violences.
Juste pour ajouter un point, vous savez, quand on voit ce qui se passe justement après les situations de conflit, c'est ce qu'on avait vu avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et des viols massifs en Bosnie. Eh bien, on voit bien que quand on est au niveau des traités de paix, eh bien, on va mettre de côté les violences sexuelles qu'ont subies les femmes, parce que finalement, est-ce que c'est pas moins grave? Et donc, justement, cette prise de conscience aussi, c'est de dire les violences sexuelles que subissent les femmes pendant les conflits sont aussi graves que les meurtres, les assassinats, les disparitions, et elles doivent être prises en charge de la même façon et jugées de la même façon.
L'impact des violences, Muriel Salmona, c'est un sujet que vous connaissez bien. Je rappelle que vous êtes psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Les violences sexuelles, et particulièrement les viols, mais l'ensemble des violences sexuelles ont un impact psychotraumatique majeur, avec des problèmes de l'atteinte à l'intégrité mentale et physique très importante, et représentent en fait une perte de chance en termes de santé pour les femmes sur de très longues années. Pour les viols, par exemple, c'est équivalent à la torture comme impact psychotraumatique. Donc c'est extrêmement lourd, extrêmement grave, extrêmement destructeur. Et ça l'est dans la durée. Donc même 40 ans, 50 ans après, du fait même des troubles psychotraumatiques qui entraînent une mémoire traumatique qui fait revivre à l'identique les pires moments continuellement, ça va générer une souffrance mentale. Une femme sur deux qui a subi des violences sexuelles fait des tentatives de suicide, une femme sur deux a des conduites addictives, une femme sur deux a des dépressions en répétition. Ça va générer aussi une vulnérabilité très importante par les mécanismes de sauvegarde qui se mettent en place, avec un risque de subir à nouveau des violences. 70% des femmes qui ont déjà subi des violences vont en subir à nouveau, et des risques aussi sur la santé physique, cardiovasculaire, à tout niveau, hein, bronchopulmonaire, digestif, gynéco-obstétrico, etc., etc. Donc c'est un problème de santé publique majeur dont on commence à prendre conscience, et c'est d'autant plus grave et d'autant plus scandaleux que ces conséquences-là pourraient être prises en charge, traitées, et on pourrait éviter la majeure partie de ces conséquences si on prenait en compte la protection, l'identification et la prise en charge et le soin de ces victimes.
Alors, on développera, mais tout ce que vous venez de dire m'inspire ceci, des souffrances multiples, Muriel Salmona, donc un coût économique extrêmement important.
Majeur. Un coût économique majeur, et c'est aussi une femme sur deux qui a subi des violences sexuelles qui va avoir des épisodes de précarité, de marginalisation. C'est à tout niveau, ça va avoir un coût majeur.
Geneviève Garrigos.
Oui, et là, on peut voir aussi à quel point nos sociétés ne prennent pas en charge ces violences. C'est-à-dire que on l'a vu y compris avec MeToo et Balance ton porc en France. Souvent, quand les femmes dénoncent, on met en cause leurs paroles. Et on les condamne au silence, on les condamne à l'enfermement, à la culpabilité. Hein. Et je le rappelle, hein, on ne se fait pas violer, on est violé, parce que même les mots ont leur importance à ce niveau-là. Et on prend pas suffisamment en charge l'aspect psychosomatique, comme le disait Muriel. Il n'y a pas assez derrière d'organismes ou de services qui peuvent prendre en charge les personnes. Et cela est également vrai avec toutes ces femmes migrantes, réfugiées, qui arrivent aujourd'hui en France. Elles ont été prises dans des réseaux de trafic, elles ont été violées, elles ont subi des violences absolument épouvantables. Et au-delà de l'asile, au-delà d'un hébergement, il faut aussi voir comment on va les accompagner pour qu'elles puissent se réparer, se reconstruire. construire. Et un des soucis qu'il y a notamment, c'est la question des hébergements des femmes qui sont justement en grande précarité à la rue, qui peuvent se retrouver dans des foyers où elles vont se retrouver confrontées à ces violences. Et donc là aussi, il faut anticiper, les prendre en charge, etc. Donc il y a une véritable prise de conscience, non seulement des violences sexuelles, de leur impact et de ce que la société doit faire pour accompagner les femmes.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Geneviève Garrigos et Muriel Salmona dans quelques instants. À tout.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, femmes, un combat mondial à quelques jours du 8 mars, journée internationale des femmes. Nous retrouvons nos invités, Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur du rapport remis il y a quelques semaines à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Rapport qui pointe l'impunité des coupables de crimes et délits sexuels et les limites du système judiciaire en France. Et Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty International France et porte-parole de la Fondation des femmes. Le constat que l'on peut faire pour redémarrer cette deuxième partie d'émission, après tout ce que nous avons dit dans la première, c'est que la colère des femmes à l'égard des comportements machistes grandit depuis quelques années, et ce, partout dans le monde. C'est une surprise, Muriel Salmona?
Alors, non, c'est pas une surprise, mais ce qui est une surprise, c'est que l'écho médiatique soit au rendez-vous. Disons que là, avec MeToo, avec Balance ton porc, il y a vraiment eu... cette colère a été enfin entendue. Sinon, la colère, elle est là depuis très longtemps. On n'arrête pas de la relayer, mais disons que là, il y a une prise de conscience. Et puis, il y a une indignation quand même qui commence à poindre. C'est-à-dire que le déni, la loi du silence est un petit peu secouée. Et j'espère que ça va perdurer. En revanche, après, il faut que ça se concrétise dans des actes et dans vraiment une lutte contre l'impunité de tous ces crimes et délits.
Oui. Geneviève Garrigos.
Oui, et au-delà de l'Europe, si je puis dire, de la France, de l'Europe, des États-Unis, on voit bien aussi que depuis des années maintenant, au niveau international, il y a des mouvements très forts. Il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, était né le mouvement justement par rapport au féminicide à Ciudad Juárez au Mexique, qui avait beaucoup indigné. On voit en Amérique latine le mouvement Ni Una Menos, dû justement à tous ces assassinats de femmes. Hein. Il y a des pays où les féminicides sont en très grand nombre. Mais on l'a vu aussi en Inde avec ces mouvements pour lutter contre le viol et les violences sexuelles. Donc, les femmes prennent la parole et elles la prennent de plus en plus fort. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des résistances en face. Et fin de l'année dernière, il y avait une grande manifestation en Argentine avec le mouvement Ni Una Menos, puisqu'il est parti de ce pays. Hein. Ni Una Menos voulant dire pas une de moins, c'est-à-dire les femmes qui manquent. Et il y a des femmes qui ont été arrêtées, qui ont subi des violences sexuelles. Mmh. Donc, on voit bien les résistances. Mais les femmes se battent et je pense que justement, tous ces mouvements font prendre conscience que les violences qu'elles subissent ne sont pas une fatalité, que ce n'est pas normal et qu'elles ont droit de se révolter et de demander à ne plus les subir. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit au fur et à mesure du temps. Et même celles qui disaient « oui, mais c'est comme ça », commencent à dire « non, ça ne peut plus être comme ça ».
Alors, Ni Una Menos ou bien MeToo, ce que l'on voit, c'est que si toutes les femmes se tournent vers les réseaux sociaux, c'est à cause d'institutions qui ne prennent pas en compte la parole des femmes. C'est peut-être un euphémisme. Mais même en France, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, elle n'est pas une priorité, ni pour la police, ni pour la justice. Muriel Salmona, comment l'expliquez-vous ?
On l'explique justement par ce déni, cette loi du silence. Bon, je rappelle que les chiffres qu'on a avec toutes nos études, c'est que 83% des victimes qui ont subi des violences sexuelles ne sont jamais ni protégées ni reconnues. 9% seulement vont porter plainte. Et au final, pour les violences sexuelles et au final, pour les viols, il n'y a que 1% de condamnation en cour d'assises. Mmh. Donc, l'impunité, elle est totale. Là, encore actuellement, les médecins ne sont pas du tout formés, alors qu'ils sont le premier recours pour les femmes qui subissent des violences sexuelles. Elles le disent. Ils ne sont pas formés ni à la connaissance de cette réalité-là, ni au dépistage systématique qui devrait être le cas, ni à la prise en charge des conséquences, ni au psychotraumatisme. féminisme. Donc du coup, c'est un véritable abandon et une véritable perte de chance que subissent toutes ces femmes qui subissent des violences sexuelles. C'est pour ça aussi que l'on monte au créneau. Là, effectivement, Marlène Schiappa, le gouvernement, Emmanuel Macron, le 25 novembre 2017, ont dit qu'ils ne laisseront plus rien passer et que ça allait devenir une priorité, une cause nationale. Donc on attend effectivement de voir les réponses qui vont être données. Par rapport au manifeste que j'ai remis, des mesures ont été reprises, donc ça au moins c'est rassurant, pour améliorer à la fois la prise en charge, d'un côté la prise en charge, et améliorer aussi le traitement judiciaire. Reste un gros problème, c'est la protection de ces femmes aussi, à tout niveau, parce que porter plainte n'est absolument pas une garantie pour être protégée. Et que les femmes qui subissent des violences sexuelles, qui portent plainte, vont être maltraitées aussi pendant les procédures judiciaires. Ça augmente le risque de passage à l'acte suicidaire. Elles sont plus de 80% à dire qu'elles ont vécu extrêmement mal toutes les procédures. Donc il y a vraiment beaucoup de choses
C'est pour
bouger.
Ça qu'elles sont aussi peu nombreuses à porter plainte.
Oui, parce que ce soit dès la plainte, mais après toute la procédure. En plus, bon, juste je rappelle, 9% seulement, par exemple, de victimes de viol qui portent plainte. 70% d'affaires qui sont classées sans suite. Et ensuite, sur les 30% qui restent, plus de la moitié sont correctionnalisées. Et au total, sur les plaintes, 10% seulement qui vont être condamnées. Donc, elles ont vraiment aucune garantie d'être entendues. Et même si elles sont dans une procédure judiciaire, elles vont être mises en cause. La loi ne les protège pas non plus de tout ce qui va se produire, du fait d'être aussi exposées à l'agresseur, exposées à des stratégies de défense extrêmement violentes. Dire, par exemple, commencer à parler de délation, quand il s'agit de MeToo, de balance ton porc, et dire, de toute façon, elles n'ont pas à dénoncer sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'elle porte plainte. Dans l'absolu, oui, c'est bien entendu qu'il faut porter plainte, bien entendu qu'il faut faire valoir ses droits. Mais dans la réalité, il faut qu'elle puisse porter plainte en toute sécurité et que tout soit mis en place. Alors, Nicole Belloubet a repris la notion de pré-plainte, de sécurisation. On espère que ça va améliorer les choses. Et du coup, maintenant, les femmes vont pouvoir aussi aller dans les unités médico-judiciaires aux urgences pour avoir un recueil au niveau médico légal, sans qu'il y ait de réquisition, sans qu'il y ait de plainte. Donc ça va peut-être commencer à faire bouger les choses.
Donc ce que j'entends, évidemment, de ce que vient de dire Muriel Salmona et Geneviève Garrigo, c'est que le silence est davantage une contrainte qu'un choix.
Oui, et la première contrainte, d'ailleurs, c'est la crédibilité. Hein. La victime de violence est traumatisée, mais en plus, se retrouver face à des gens qui vont pratiquement la traiter de menteuse, c'est une double violence pour la personne. Et d'où l'importance aussi du rôle des associations qui les accompagnent. Parce qu'on voit bien que, effectivement, on dit porter plainte, mais où trouver aussi déjà le courage de porter plainte? Comment accompagne-t-on ces femmes? Et on l'a vu justement avec le mouvement MeToo en France et Balance ton porc. Les associations justement qui sont à l'écoute, hein, comme l'Association européenne pour les violences faites au travail ou le collectif féministe contre le viol, elles sont absolument débordées de tous les appels qui leur arrivent pour demander des conseils, des accompagnements. Il y a la mise à l'abri, il y a l'accompagnement, les conseils juridiques, etc. Vraiment, comment accompagner toutes ces femmes? Et aujourd'hui, ces associations sont totalement démunies parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et d'ailleurs, la VFT, donc l'Association européenne des violences faites au travail, a annoncé fin janvier qu'elle était obligée de suspendre momentanément le standard d'accueil des femmes parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire.
Muriel Salmona.
Mais là, je voulais rebondir aussi sur la notion de porter plainte. Pour porter plainte, encore faut-il en avoir la capacité. Il faut rappeler que la plupart des violences sexuelles sont commises par des proches. Donc les personnes sont le plus souvent en situation de dépendance par rapport à ceux qui exercent les violences, donc ne peuvent pas porter plainte, sont menacées et vont avoir du mal à identifier parce qu'elles sont trop jeunes. 80% des violences sexuelles sont commises avant 18 ans, 51% avant 11 ans et 21% avant 6 ans. Et puis, c'est les plus vulnérables qui sont les plus touchés. Donc, par exemple, les personnes handicapées subissent 4 fois plus de violences. Les personnes autistes, par exemple, sont 90% à avoir subi des violences sexuelles. 90%. Et ils ne vont pas du tout avoir les moyens, les capacités pour porter plainte. Et puis, il y a toutes les personnes qui ont des troubles psychotraumatiques. Dans ces troubles psychotraumatiques, il y a ce qu'on appelle une dissociation traumatique et un mécanisme de sauvegarde tant qu'on est exposé à l'agresseur, qui vous déconnecte, en fait, qui déconnecte votre capacité de ressentir des émotions, de mémorisation, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des amnésies traumatiques dissociatives qui peuvent durer des années, des dizaines d'années, voire 30 ans, et que du coup elles n'ont pas du tout la possibilité de porter plainte. Donc pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de délai de prescription, même s'ils ont été un peu augmentés, c'est encore bien insuffisant, et il faut qu'on aille vers elles, il ne faut pas attendre qu'elles portent plainte. Leur protection est absolument indispensable, souvent elles subissent des violences pendant des années, hein. Donc il faut y aller, donc il faut absolument les dépister. Donc il faut que tous les professionnels, toutes les personnes posent la question systématiquement, mais les professionnels de la santé qui sont en première ligne, mais aussi l'entourage. Il faut que tout le monde soit concerné, engagé et pose des questions, parce que c'est en posant des questions qu'on va faire émerger une parole et qu'on va permettre que les personnes arrivent à dénoncer les faits.
Alors, le président Emmanuel Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat, avec trois priorités: un meilleur accompagnement des victimes, éducation et combat culturel en faveur de l'égalité et renforcement de l'arsenal répressif. Un projet de loi va être présenté en Conseil des ministres mercredi prochain. Muriel Salmona, qu'est-ce que l'on connaît et qu'est-ce qu'il faut en attendre ?
Alors, j'en ai un peu parlé, il y a des mesures, par exemple, de facilitation de plaintes qui vont être dedans, il y a des mesures effectivement au niveau de l'éducation des plus jeunes, des mesures aussi de formation des professionnels, des mesures pour les médecins, justement pour mettre en place ce dépistage systématique. Ce qu'on attendrait, c'est qu'il y ait absolument une obligation de formation pour les professionnels de santé, c'est-à-dire qu'actuellement encore, les étudiants en médecine ne sont toujours pas formés pour prendre en charge ces victimes, ils sont plus de 80% à ne jamais avoir été formés, et plus de 95% à dire qu'ils veulent être formés, donc ça on est. Et puis, il y a la loi, comme l'âge du consentement légal des mineurs par rapport à des actes sexuels commis par des majeurs. Donc là, les gens ont découvert avec effarement qu'il n'y avait pas de seuil d'âge de consentement. Donc on pouvait considérer une enfant de 11 ans comme consentante à des actes sexuels avec de pénétration avec un homme de 28 ans et une autre aussi de 11 ans avec un homme de 22 ans. Donc là, Emmanuel Macron et Marlène Schiappa se sont déclarés favorables à 15 ans. Il faudrait que ce soit irréfragable, c'est-à-dire qu'en dessous de cet âge-là, on ne puisse pas rechercher le consentement de l'enfant. Parce que là, actuellement, avec, sauf avec une jurisprudence qu'on a de la Cour de cassation, c'est à partir de 5 ans, on peut rechercher le consentement d'un enfant. Ça, c'est délirant. Il y a un déni total de la réalité de ce que sont les violences sexuelles et un déni de protection des enfants. Et puis, un allongement du délai de prescription pour les mineurs. Hein. La prescription a été allongée de 10 à 20 ans pour les viols et de 3 à 6 ans pour tous les crimes et les délits. Et là, il serait question que ça soit augmenté de 20 à 30 ans après la majorité pour les mineurs. Nous, on demande une imprescriptibilité parce que ce que je vous ai dit, c'est extrêmement difficile pour les victimes de porter plainte. Et le plus souvent, on se retrouve même avec des situations, avec des viols en série où, pour des mêmes faits commis par des mêmes personnes, on se retrouve avec des personnes qui peuvent avoir accès à la justice et d'autres qui peuvent pas avoir accès pour ces systèmes de prescription. Donc voilà, donc on demande.
Jeune de Garrigos.
Oui, et ce qui est très important, et c'est justement tout le travail que fait Muriel au niveau de la sensibilisation des professionnels de santé, mais en règle générale, parce que quand on a adopté les lois définissant le viol, etc., on ne connaissait pas le processus qui peut s'instaurer au niveau de la victime, comme justement le fait qu'elle se retrouve complètement paralysée, alors qu'on demande justement des preuves comme quoi elle s'est défendue, comme quoi elle a crier. Voilà. Et donc, on est dans une situation où c'est extrêmement difficile. Et ça aussi, il faut tenir compte des avancées au niveau de notre connaissance neurologique, psychologique, etc., des phénomènes pour en tenir compte dans les procès. Parce que si on continue à demander de telles preuves, eh bien, on va continuer aussi avec ce niveau d'impunité pour les femmes. Et donc là, c'est majeur. Et puis, je le répète, il y a les lois, il y a la sensibilisation que fait Muriel, la formation des professionnels, que ce soit au niveau de la justice et de la santé, mais il y a aussi les moyens. Il faut mettre des moyens. On peut pas faire que des déclarations. Il faut mettre les moyens financiers pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Surtout qu'avec cette libération de la parole, ce que vous disiez précédemment, Geneviève Garrigo, c'est-à-dire que les appels, les femmes affluent de façon, enfin, dans des proportions beaucoup plus importantes et que...
Il n'y a pas de réaction en face. Hein, on a eu un très beau discours au mois de novembre, mais quels sont les moyens effectifs? collectifs. Les associations qui ont travaillé justement sur les annonces faites par le président ont constaté que on déshabillait Jacques pour habiller Paul, donc ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que la semaine dernière, notamment avec 130 actrices et femmes du cinéma en règle générale, la Fondation a lancé la campagne « Maintenant on agit », hein, qui a été reprise au niveau des Césars. Et nous appelons, nous, parce que chacun doit se sentir aussi concerné par ces violences et agir par son comportement, mais aussi donner pour que les associations puissent faire leur travail, accompagner les femmes, et que les femmes qui ont eu le courage de parler, eh bien, elles trouvent aussi comment être accompagnées pour porter plainte. Donc, je lance l'appel donné pour les associations, et on peut le faire sur le site de la Fondation des femmes.
Maintenant, on agit. C'est un tournant historique, finalement, d'une certaine manière, Muriel Salmona, quand on voit que, enfin, le fait nouveau, probablement, en cette année 2018 ou fin 2017, pour ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que les femmes n'acceptent plus.
Oui, oui. Alors ça, je pense que c'est un tournant historique sur le fait qu'il y a une solidarité, là, qui s'est mise en place. Parce que ça, je pense que c'est vraiment cette notion de solidarité qui est vraiment essentielle. Parce que la domination masculine agit pour isoler toutes les femmes et qu'elles ne soient pas solidaires entre elles. Là, il y a un véritable mouvement qui est tout le temps en train de rebondir, donc j'espère que ça va continuer avec Time's Up. C'est là, voilà, maintenant, le fait d'agir ensemble. Mais c'est vrai que il n'y a pas que ça, il faut vraiment qu'il y ait une connaissance, qu'il n'y ait plus de déni face aux violences sexuelles, qu'il y ait une connaissance de la réalité de ces violences. Il ne faut pas oublier les enfants, les personnes les plus vulnérables. Il faut leur donner la parole aussi, il faut parler pour elles quand elles ne peuvent pas parler. Et puis, justement, toutes ces conséquences psychotraumatiques, le fait que, justement, il y a des atteintes neurologiques, que ça a un impact sur la santé, qu'il y a ces phénomènes de sidération, ces phénomènes de dissociation némartraumatique, il faut que ce soit connu, parce que ça participe totalement à ce qu'on appelle la culture du viol, la mise en cause des victimes, où on va, de façon extrêmement cruelle et injuste, leur reprocher des conséquences qui sont directement liées aux violences qu'elles ont subies. Donc ça, il faut que ça s'arrête absolument.
Alors, moi, je voudrais juste faire ce constat. Des émissions sur les femmes, nous en faisons tous les ans à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Ce que je vois aujourd'hui, tout de même, je vous regarde, Muriel Salmona, Geneviève Garrigaud, c'est que, il me semble, vous êtes sur ces questions depuis de nombreuses années, on avance.
Oui, on avance. Et ce qu'on sent, moi, dans le cadre de ces 15 dernières années particulièrement, c'est qu'il y a plus en plus justement de liens aussi entre toutes les femmes, de toutes conditions, de toutes situations. Et puis aussi au niveau international, on a de plus en plus de contacts internationaux. On se soutient de plus en plus. Il y a tout un réseau de résistance très efficace qui se met en place. Et puis un réseau d'information. Et vraiment, les journalistes, je les remercie parce que c'est eux qui sont notre porte-voix. Et là, ils s'impliquent, ils s'engagent. Il y a Prenons la Une aussi. Donc ça, c'est énorme. Vraiment, la communication autour de cette réalité, c'est ça qui permet aussi une véritable indignation. Il faut que les gens sachent pour pouvoir s'indigner.
Geneviève Garrigaud.
Oui, et une des choses, et justement pour revenir sur ce que disait Muriel, sur les femmes qui se retrouvent isolées, qui n'osent pas, etc., cette notion de solidarité, on nous a toujours dit que finalement, si on était agressé, si on était violé, en gros, c'était un peu de notre faute parce qu'on l'avait cherché. Et le fait que les femmes commencent à parler, qu'elles le disent, que elles se rendent compte qu'il y a autant de femmes qui subissent ces violences, qu'on puisse dire, et moi je suis étonnée de jeunes femmes qui commencent à oser dire, oui, un tel m'a fait ça, oui, au niveau de mon travail, il s'est passé cela, etc. C'est extrêmement important. C'est eux qui doivent avoir honte, pas nous, hein. La honte, la peur doivent changer de camp. Et il y a des institutions, par exemple au niveau du travail, il y a les délégués du personnel, il y a la médecine du travail, il faut parler, il faut le dire. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'on doit dépasser ce stade de la culpabilité et de la honte, mais c'est comme ça qu'on va gagner. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un mouvement qui le permet, donc il faut pas qu'on le laisse retomber et vraiment qu'on aille jusqu'au bout de ce mouvement.
Et dans le monde du travail, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Muriel Salmona, très rapidement pour conclure.
Oui, parce que là, justement, il y a un phénomène de contrainte avec le risque, et surtout les femmes déjà ont déjà du mal à être autonomes, indépendantes, elles sont déjà précarisées dans le monde du travail, donc c'est sûr. Je voulais juste donner 2-3 chiffres. Là, les derniers chiffres avec les dernières enquêtes, c'est 12% des femmes qui disent avoir été violées.
tout au long de leur vie. C'est 93 000 femmes qui subissent des viols par an, des crimes, et au moins 135 000 filles qui subissent des viols tous les ans. Donc voilà, donc c'est des chiffres quand même qu'il faut prendre en compte pour voir le caractère massif. Et c'est 20% des femmes qui subissent des violences sexuelles ou sexistes au travail.
Caractère massif, merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Muriel Salmonin, psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Auteur, je le rappelle, du rapport qui a été remis il y a quelques semaines à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Rapport qui pointe l'impunité des coupables de crimes et délits sexuels et les limites du système judiciaire en France. Et Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty International France et porte-parole de la Fondation des Femmes. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Véronique Durand. À samedi.